Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme, ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles sont entrepreneuses, artistes, altruistes, courageuses, têtues, ambitieuses, passionnées. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme.
Alexia Laroche-Joubert, le grand public vous a découverte vous déhanchant sur les primes de la Star Academy dont vous étiez la première directrice. Mais il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg, puisque votre nom se cache en réalité derrière les plus grandes émissions de divertissement français. Et surtout, vous êtes celle qui a introduit la télé-réalité en France. D'abord directrice des programmes d'Endemol, puis productrice de nombreuses émissions comme Koh-Lanta, Love Story ou la Star Academy pour ne citer que. Vous n'avez eu de cesse d'avancer depuis vos débuts et en septembre dernier, votre carrière a encore grimpé d'un échelon en prenant une envergure internationale. Vous êtes l'une des rares femmes à avoir réussi à se faire un nom dans le milieu de la production. Vous êtes la reine du divertissement, l'une des femmes les plus puissantes de la télévision française. Alexia, bonjour.
Bonjour, j'adore démarrer la journée comme ça, moi. Parce que je vois pas comment ça peut être mieux.
Vous travaillez donc aujourd'hui dans le divertissement, c'était un rêve depuis que vous étiez toute petite ?
Non, pas du tout, je voulais être flic. Je suis née de parents qui travaillaient dans la télévision. Alors pas du tout pour le divertissement, pour ma maman, puisqu'elle était, elle est toujours grand reporter de guerre. Et mon papa était publicitaire. Et mon beau-père a été l'un des fondateurs de Canal. Donc je pense que j'étais un peu biberonnée à ça. Entre le miroir de la détresse humaine en étant flic et les paillettes du rêve de princesse, je crois que j'ai choisi le rêve de princesse.
Comment ça vous est venu, du coup, la télé ?
Oh, ça m'est venu très, très tôt. Je me rappelle, maman m'emmenait souvent dans les salles de montage quand elle réalisait ses reportages. Et j'avais l'autre cuidance de lui dire « Ah non, il faut mieux monter ça dans ce sens-là, etc. » Ce qui est quand même un gag, un peu. Et je pense que ça m'est venu là. C'est-à-dire du plaisir de raconter des histoires et d'être dans une salle de montage. Et après, j'ai fait mon premier stage avec une équipe qui était assez marrante parce que ça a été les fondateurs un peu de la télé libre, un peu dans la mouvance des radios libres. Et donc, je rangeais des cassettes et ils étaient hyper rock, hyper marrants. Ils ont été à l'origine d'un scandale. C'est eux qui avaient mis des images subliminales de Mitterrand dans le générique du JT de 20h. Ce qui donc avait fait dire à certains que si Mitterrand avait été élu, c'était parce qu'il y avait une sorte de manipulation des cerveaux. Donc, c'était quand même des gens assez marrants et assez rock.
Vous êtes une femme de défi, on a l'impression que rien ne vous résiste. Pourtant, les débuts n'ont pas forcément été faciles, notamment la scolarité était un peu pénible.
Ah bah, il n'était pas pénible, il était atroce. C'est très compliqué parce que maman, pour le coup, a fait des études brillantes, Sciences Po, Prépa l'ENA, elle n'a jamais fait une faute d'orthographe de sa vie, et moi, j'étais dyslexique, et grave, enfin, dysorthographique et dyslexique. L'école a été une souffrance, j'ai appris à lire et à écrire à 11 ans, et un jour, comme ça, je me retrouve chez la pédopsie avec ma fille, et puis à un moment, elle me regarde, elle me dit « Racontez-moi l'école », et là, devant ma fille, je fonds en larmes. Et je pense que ça a été un traumatisme profond de autant travailler pour si peu de résultats.
Et quand est-ce que se fait le virage où là, d'un coup, vous réussissez ?
Déjà, je pense que j'ai eu le bac, et je me rappelle quand je suis allée regarder les résultats avec maman, j'ai regardé ce qui était récupéré en septembre, vous savez, les rattrapages de l'oral. Et je me vois pas, je me dis à maman, voilà, je l'ai pas, hein, c'était prévisible. Et on part, et là, moi, j'ai un nom très long, puisque je m'appelle Alexia Laroche-Joubert, et donc ça sortait des cases. Et donc je m'arrête, et là, je vois que je l'ai à 10, donc à la moyenne. Non, mais alors là, ma mère, je crois que c'était 17 ans d'éducation, de lutte pour essayer de m'amener au bac. Et après, j'ai fait des études de droit et j'ai réussi parce que j'ai une bonne mémoire. J'étais capable de réciter des paragraphes entiers ou des clauses de droit publiques. Enfin voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait mes études de droit.
Vous avez donc fait vos débuts sur Canal+, et puis un jour vous décidez de quitter Canal alors que c'était une chaîne qui avait le vent en poupe. C'était plutôt assez à la mode. Pourquoi d'un coup vous décidez de partir ?
Je pense que ça tient beaucoup à mon caractère. Donc, je travaillais avec Michel Denisot et Marc-Olivier Fogiel, dont je suis toujours extrêmement proche. Ça a été une expérience très riche. Mais je suis allée voir un jour Pierre Lescure, qui était le patron à l'époque de Canal, et je lui dis « Écoute, ça va te sembler dingue, mais je suis pas heureuse chez vous. » Il y avait un côté entre soi, où on se félicitait des bonnes blagues, où on considérait qu'on était l'élite intellectuelle. Et je lui dis « Voilà, moi, je veux parler au plus grand nombre. Je me sens pas raccord avec cet esprit-là. Moi, je suis quelqu'un fondamentalement de populaire. Et donc, je l'ai quitté, parce que ça a vraiment été vécu comme ça. On partait pas de Canal à l'époque, pour aller dans ce qu'ils estimaient être le diable, c'est-à-dire Pascal Brogniaux, qui faisait des magazines à TF1. Et j'avoue que j'ai beaucoup appris aux côtés de Pascal.
Là encore, chez TF1, vous restez un an, vous êtes bien installé et vous partez pour un CDD de 3 mois.
Oui, alors je pense que ça, c'est souvent ce que je raconte dans ma vie et ce que je conseille aux jeunes à qui j'ai l'occasion de partir, c'est l'envie et le meilleur des drives. Et ne vous posez pas la question de l'argent, du risque, etc. Au final, si vous faites les choses par envie, par principe, vous les faites bien. Donc par principe, ça donnera lieu à quelque chose de positif. Et donc je quitte TF1 alors que j'avais un CDI et je pars pour un CDD, ouais, c'est ça, 2 mois et demi, 3 mois, pour lancer un programme qui me faisait rêver aux États-Unis, qui s'appelle Entertainment Tonight. Et donc, c'était l'adaptation de ça. Et ça a été merveilleux parce qu'il y a vraiment des familles d'artistes de cinéma. Et c'est là où j'ai rencontré Jenny Godula, Stéphanie Pilonka, Sophia Aram, Jonathan Lambert, Flavie Flamand, Hélène Zelani. Et ça a vraiment été pour moi ma famille de cœur.
On arrive en 2001 et là, c'est un moment décisif de votre carrière puisque c'est l'année où vous adaptez Love Story en France. Donc, vous faites entrer la télé-réalité dans le divertissement français.
Ouais, c'est une jolie histoire. Un an avant, je lis un magazine dans un hebdo d'actualité, je ne sais plus si c'était l'Express ou le Point, et je vois un tout petit encart indiqué à un monsieur qui s'appelle John DeMol, que je ne connaissais pas, a décidé d'adapter en télévision une expérience où des scientifiques s'étaient mis dans une biosphère et devaient recréer un schéma social de vie collective et par ailleurs produire des expériences, etc. Et donc, il avait décidé d'adapter ça et c'est comme ça qu'il a lancé Big Brother. Et nous, un an après son lancement de Big Brother, on va faire Love Story. Et j'avais toujours dit, voilà, à mon patron de l'époque, si un jour ça doit arriver en France, j'ai envie de le faire. Mais j'étais très jeune, relativement inexpérimenté, donc il a cherché plein de producteurs, et c'est le charme des outsiders. Faute de combattants, j'ai eu le job. Ça a été ma plus belle expérience, mais probablement la plus difficile. Un enjeu de production incroyable, puisqu'on l'a lancé très tardivement, j'avais 2 mois et demi pour le lancer. Ça a été d'une violence totale dans les médias. Un rythme effréné, on n'était pas du tout outillés pour vivre cette aventure, on était trop peu. Et quand j'ai fermé le loft, je suis rentrée chez moi, le père de ma fille m'a enlevé mon téléphone et j'ai dormi 24 heures d'affilée pour vous donner l'état de délabrement dans lequel j'étais.
Et psychologiquement, comment on vit les attaques? Parce qu'elles ont été quand même virulentes. Ségolène Royal vous a traité de proxénète. Le médecin du loft a été traité de Mengele, donc le médecin nazi. Comment on vit ça?
C'est-à-dire que j'étais tellement prise par délivrer le programme. Il y avait beaucoup, beaucoup d'événements dans le loft qui n'étaient pas faciles à gérer. Que je considérais tous ces gens-là un peu comme si j'étais dans une bulle. C'est-à-dire que j'étais moi-même dans le loft du loft. C'est comme s'il y avait des gens qui s'agitaient derrière une bulle, qui hurlaient avec des pancartes, etc., mais dont le son était assourdi. Je pense que je me suis protégée comme ça. Et que je l'ai trouvé profondément ringard, et pas dans l'époque, et pas dans un mouvement de société beaucoup plus profond.
Ça n'a jamais été difficile d'assumer le loft.
Ah non, mais moi j'ai toujours été très claire. J'ai toujours adoré ce programme, j'ai toujours défendu. On a sûrement fait des erreurs. On ne suivait pas suffisamment les candidats à la sortie, parce que nous-mêmes, on ne savait même pas qu'il fallait les suivre. En revanche, c'est un programme que j'adore, et je serais très heureuse un jour si je pouvais le refaire même.
Qu'est-ce qui vous plaisait dedans ?
C'était la prise du téléviseur de papa et de maman par des jeunes. C'est la première fois qu'on donnait la parole à des jeunes comme ça. C'était d'une modernité totale dans la forme. Il y avait cette notion que les jeunes ont depuis, évidemment, avec les réseaux sociaux. Ma vie a une valeur et je veux vous la raconter, même dans les moindres détails. Même manger un plat de spaghettis devient un événement. Et donc ça m'amusait beaucoup. Je trouvais que ça donnait de la valeur au quotidien. Et il y avait ce mélange de monde. Parce que il y avait à la fois Luana, Stevie, mais Jean-Edouard et Laure. Et c'est, je pense, ce mélange de société n'avait jamais lieu dans la vraie vie.
Arrive la Star Academy. Alors là, c'est encore un nouveau défi parce que vous êtes productrice, mais vous êtes également directrice de la Star Academy, donc vous êtes aussi devant l'écran. Comment vous vivez cette double casquette ?
Je le vis avec le regard d'une productrice. C'est-à-dire qu'on me le propose, parce qu'on n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui joue ce rôle-là. Et mon patron me le propose de la manière la plus simple du monde. Il me dit, bah, tu produis, bah, ça doit être la même chose que d'être directrice, hein, donc t'as qu'à y aller. Oh, bah, j'ai dit, bah oui, t'as raison. Je pouvais donner un ton. Par exemple, voilà, je trouvais qu'ils étaient insupportables, mal élevés et qu'ils rangeaient pas leur chambre. J'allais pas dire à quelqu'un, tu leur dis ça. Eh ben, je leur dis, bah, voilà, je vous trouve insupportable, rangez votre chambre et tout ça. Au moins, c'était direct.
Et ça vous a appris des choses en matière de production ?
Ce que ça m'a appris, c'est que c'est difficile d'être à l'antenne. Je pense que j'ai un regard avec une incroyable tendresse auprès des animateurs et animatrices. Moi, j'avais les mains moites quand je montais sur le plateau de la Starac, mais un truc. J'étais en panique, quoi. J'apprenais mes textes par cœur. Enfin, bon, j'étais pas du tout naturelle. Ouais, je pense que ça vous apprend ça.
Dans toutes ces émissions de télé-réalité, évidemment, il y a le casting avant. Il y en a un qui est un peu particulier, c'est celui de Grégory Lemarchal, parce que ça n'avait pas été tout à fait direct comme casting, je crois.
Non, on prépare la saison 4 de Starac et je m'aperçois qu'il n'y a aucun candidat qui ont un handicap, etc. Et il s'avère que moi, je suis assez ouverte à ça parce que le père de ma fille était suédois et donc il y a une manière d'appréhender le handicap complètement différente dans les pays nordiques. Je dis à mes équipes de casting, envoyez des papiers aux associations en disant, voilà, ils peuvent parfaitement s'y chanter. Qui se présente. Et donc là, j'ai un coup de téléphone d'une association qui me dit, c'est pas quelqu'un qui est chez moi, mais c'est quelqu'un que je connais, qui a une maladie grave. Est-ce que vous êtes d'accord pour recevoir ça, à l'époque, c'était des VHS. Je dis, bah, bien sûr. Et je reçois la VHS et je me dis, il prenait Céline Dion. Je me dis, bon, il a l'air de chanter bien. Je suis pas non plus une experte. Il est hyper mignon, il a de la vie, etc. Et je l'envoie à Pascal Nègre, qui était le patron d'Universal. Et je lui dis, voilà, la seule chose, c'est qu'il a une maladie grave, la mucoviscidose, donc ça va demander énormément de contraintes pendant le tournage. Et il me rappelle, il me dit, mais tu te rends compte avec ça de ce que tu fais? Je me dis, il va m'engueuler. Il va me dire, c'est une exploitation de la misère humaine. Enfin, le truc. Il me dit, je n'ai jamais reçu quelqu'un qui a une capacité vocale comme ça. Depuis, c'était Balavoine. Et visiblement, Balavoine avait 6 octaves et Grégory avait 6 octaves. Voilà. Et c'est comme ça que ça démarre.
Après 13 ans chez Endemol, vous partez et vous montez votre propre société. C'était l'envie de l'entrepreneuriat qui vous avait
pris ? Alors, pas du tout. Mais alors, en plus, moi, je suis un cas encore atypique. C'est que je pars. Après 13 ans de boîte, j'étais la numéro 3. J'avais des stock options. Je gagnais très bien ma vie. Je claque la porte sans indemnité, sans chômage. J'avais pas du tout envie d'être entrepreneur, et pas du tout. Moi, je viens d'une famille d'artistes. Personne m'avait dit qu'on pouvait aller voir les banques, taper à la porte d'un banquier, lui dire « Est-ce que tu peux me prêter de l'argent pour monter ma boîte ?» Et donc, j'ai mis toutes mes économies. C'est moi qui payais les gens avec mon argent, quoi. Je savais pas. Non, mais c'est débile, hein. J'avais de l'argent de côté, donc je l'ai employé à ça. Et après, j'ai produit, puis après, j'étais racheté. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est la vie, vous le faites à une certaine forme de naïveté, mais elle peut être aussi généreuse avec vous. Donc, je le dis aux filles maintenant, allez voir les banquiers. Enfin, quand ils vous prêtent de l'argent, c'est fait pour ça, banquier. Moi, je pensais que c'était juste pour acheter sa bagnole, quoi.
Et finalement, vous êtes rapidement racheté. Et vous montez dans cette nouvelle boîte. Les Ch'tis, ça a rien à voir avec ce que vous avez fait avant en matière de télé-réalité. Comment ça vous est venu, cette idée ?
Ça nous est venu, parce que c'est vraiment un travail collectif, avec un garçon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Frédéric de Vincel, qui est toujours dans le groupe M6, et Florence Fayard, la patronne de la société qui produit, par exemple, les 50, etc. Là. On s'est dit, au final, on a envie de suivre des gamins comme on regardait nous, Hélène et les garçons, quand on était jeunes. Et on s'est dit, bah, on va les suivre, et on va les suivre faire des expériences rigolotes, c'est-à-dire DJ, etc. et tout, parce que la fête, les jeunes aiment bien. Voilà, ça s'est passé aussi simplement que ça. Et on est parti tourner à Ibiza, la première saison.
Vous êtes aussi derrière Koh-Lanta, une émission d'une incroyable longévité. Comment vous l'expliquez ? Quel est votre secret ?
Déjà, ça a été une responsabilité énorme quand j'ai pris la tête d'ALP, donc Adventureland Productions, qui produit Koh-Lanta et Fort Boyard. C'est que d'un seul coup, moi, j'étais toujours à la genèse, au lancement de programme, et là, pour la première fois, on me confiait comme un joyau. On me disait, voilà, ça fait déjà 20 ans que ça existe, il faut le faire durer. Donc, c'est une autre manière de travailler, c'est une autre manière de créer. Il faut regarder qui sont les gardiens du temple. Et après, c'est un peu les challenger, mais quand ils vous disent, non, Alexia, là, tu vas trop loin, il faut les écouter. On a réussi à maintenir la marque avec énormément de succès, même plus que certaines époques. Voilà. Mais c'est une vraie responsabilité. Je trouve que l'héritage est plus difficile que d'y aller de rien.
Surtout que vous avez dû affronter le Covid. Vous faites partie des rares à avoir maintenu l'émission.
Ouais, ça, c'est un peu mon fait de gloire. Si je devais me donner une médaille, c'est celle-ci. Parce que tous les pays du monde ont arrêté de produire. Et moi, j'ai dit, on y va. Donc il n'y avait pas d'assurance, donc j'engageais la société, parce que si par hasard je devais arrêter le tournage, je perdais tout ce qu'il y avait dans la société. Déjà, je fais un voyage express en Polynésie, je m'aperçois qu'ils sont OK pour nous accueillir. Après, je me dis, mais où je vais les loger? Parce que tous les hôtels étaient fermés. Donc j'appelle le Ponant. et je leur dis, mais est-ce que vous pouvez me prêter un bateau? Le bateau arrive à quai, et là, on me dit, le cuistot a le Covid. Donc je dis, personne ne monte. Avez-vous un autre bateau qui est en mer depuis 3 semaines? Et ils m'ont dérouté un bateau pour récupérer mes équipes. Mais ça a été, quand on a terminé le tournage, je me rappelle toujours, on était sur le pont du bateau, et on s'est dit, non mais comment on a fait cette folie, quoi? Il faut être un peu, là pour le coup, il faut être un peu fou.
Alors aujourd'hui, votre carrière a encore monté d'un cran puisque vous êtes la PDG de Banijay, donc une énorme maison de production. Vous avez le vertige en prenant ce poste ?
Non, je me suis dit déjà que j'étais quand même dans un environnement familier, aux côtés de Stéphane Courby, que je respecte énormément et qui, d'une certaine façon, aussi est là pour m'aider en cas de problème. Et je connaissais bien les équipes et je connais bien le métier. Après, il y a toute une notion de stratégie. Je ne suis plus en charge de production. Ça, ce sont mes camarades qui dirigent chacun des filiales de la société. Et je suis là pour les accompagner en cas de difficulté. Je suis là pour éventuellement, s'ils ont besoin, être là. Mon métier, c'est de leur donner des perspectives, de gérer la boîte, de voir comment optimiser les manières de produire et travailler à leur côté. Voilà, pour qu'ils se sentent libres de créer maintenant.
Vous êtes une des rares femmes donc à ce niveau de poste dans la production. Quelle est votre patte ? Pourquoi vous réussissez si bien ?
Parce que je me suis jamais dit que j'étais une femme. Parce que je me suis toujours considérée comme un individu avec des faiblesses, des forces, des choses à apprendre et des choses sues. Je pense que j'ai une énergie communicative, que j'aime profondément les gens, que j'aime bien que les gens soient heureux. Je travaille beaucoup au bonheur des autres parce que, évidemment, ils vous le rendent bien. Je pense que j'aime bien le pouvoir. Je déteste le conflit. Et l'avantage du pouvoir, c'est que les gens n'ont pas les moyens de se fâcher avec vous. Et j'aime bien faire avancer les choses. Je suis quelqu'un qui adore prendre des décisions.
Dans un autre registre, vous êtes encore pour quelques jours la présidente de Miss France. Et parallèlement, vous êtes plutôt assez féministe, c'est pas un peu antinomique ?
Non, bah alors moi je l'ai vécu comme justement assez cohérent. Il y a un sens à tout ça, qui vient du casting, c'est le fait de donner la possibilité à des gens de changer leur vie à travers la télévision. Que ça soit dans la télé-réalité, que ça soit par exemple Grégory Le Marchal, que ça soit tout ça, ces gens-là sont passés un moment dans le poste et ont changé leur vie et ont donné un autre parcours à leur vie, une autre direction. Miss France, c'est ça, c'est donner la possibilité à des jeunes femmes qui sont en région, qui n'ont pas toujours accès à tout ce monde-là, de changer le cours de leur vie. Et c'est elles qui ont le choix. Toutes les jeunes femmes qui sont sorties de Miss France ont une carrière, gagnent leur vie, sont indépendantes, ce qui est au final le graal d'une femme. Pour moi.
Et vous avez modernisé le programme puisque vous avez changé quelques critères de sélection.
Oui, parce que je trouvais que c'était, il y avait certains éléments que je trouvais un petit peu archaïques. C'est une émission profondément patrimoniale, c'est-à-dire qui appartient vraiment aux Français, qui a un ancrage régional et dont il faut respecter les valeurs. Néanmoins, je trouvais que ça n'avait pas de sens de dire qu'une mère de famille, donc une maman, ne pouvait pas se présenter. Moi, il s'avère que j'ai perdu le père de ma fille, ça m'a pas empêché de continuer ma carrière alors que j'ai élevé ma fille seule. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut laisser le choix aux femmes de tout assumer. Alors c'est difficile, c'est ce qu'on leur a dit, on n'a pas de crèche hein, chez Miss France, mais c'est à elles d'assumer leur choix. Voilà.
Vous œuvrez beaucoup pour la parité homme-femme. Concrètement, ça prend forme comment quand vous êtes manager ?
Quand je suis manager, je gagne un peu plus que mon prédécesseur. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que je me suis toujours battue pour une équité des salaires. J'ai jamais considéré que je méritais moins ou inversement, automatiquement plus. Je nomme des femmes à des postes stratégiques. Là, j'ai nommé une présidente à la tête justement de la TRT. On en parlait tout à l'heure, Florence Fayard, qui avait un homme au-dessus d'elle. Et donc là, j'ai dit, bah, y a pas de raison, c'est elle qui fait. Donc elle est présidente. Je viens d'acquérir une très jolie société qui s'appelle Authentic Production, qui est dirigée par une femme. En tout cas, je ne me pose pas la question de l'appartenance genrée. J'œuvre dans ce sens-là.
Vous n'avez jamais eu le syndrome de l'imposteur ?
J'ai eu plein de fois le syndrome de l'imposteur. J'ai quand même un traumatisme de l'enfance. Par exemple, écrire un mail. Maintenant, les gens savent que je fais des fautes d'orthographe. Mais avant, c'était, j'avais honte, quoi. J'ai résolu ce problème-là en montant pas à pas toutes les marches. C'est-à-dire que j'ai pas décidé d'un seul coup de gravir un échelon qui me semblait inatteignable. Ce que font les garçons quelquefois, ils prennent les jobs, voilà. Moi j'ai dit voilà, bon bah je suis arrivée à ce niveau-là, bon bah OK, bah donc je peux aller au niveau suivant. Donc j'ai mis beaucoup de temps. J'ai commencé à bosser à 16 ans quand même. Et donc j'ai obtenu ce poste-là à 53. Bon maintenant ça fait que 3 mois hein, peut-être que je vais me planter hein, on sait jamais.
D'où vient cette rage de réussir ?
Vous avez dû comprendre que j'ai été élevée dans un milieu extrêmement favorisé, mais je me sentais assez mal dans ce milieu-là. Et donc, j'étais dans un club de sport très chic. Papa m'avait inscrit là et je montais à cheval et j'étais tout le temps avec les palefreniers plutôt que d'être avec les gens de la haute, entre guillemets. Et un jour, j'entraînais des chevaux de polo et je prends les chevaux de polo avec les palefreniers, je les emmène dans un endroit de ville. Et là, il y avait une barrière et je voyais les gens de l'autre côté qui mangeaient des toasts, buvaient du champagne, des trucs, habillés très beaux. Et moi, j'avais cette barrière physique parce que j'étais avec les palefreniers. Et j'ai dit, on m'imposera jamais de barrière. Je déciderai si j'ai envie d'être dans la haute ou avec des gens plus populaires, là où je suis quand même fondamentalement bien. Mais je veux pas qu'il y ait de barrière.
Être une femme ambitieuse et en même temps mère de deux enfants, d'autant plus que vous avez perdu votre mari quand votre aîné avait un an, comment on fait pour allier les deux ?
Je pense qu'on les sacrifie un peu. Voilà. La réalité, c'est qu'il ne faut pas faire croire aux femmes qu'on est capable de tout gérer en même temps. Alors, soit on a un compagnon qui est capable aussi de prendre le relais, et moi, je suis pour la parité. Je vis avec un homme merveilleux qui s'occupe beaucoup de ma seconde, mais il y a un moment où vous ne pouvez pas tout faire. Vous avez la famille, les amis, le boulot. Il y a un moment, il y en a un qui est sacrifié. Moi, mes filles ont été très courageuses. J'ai eu des nounous merveilleuses. Il y en a encore une qui est avec moi depuis 17 ans, qui s'occupe de mes filles. Mais quand je les ai rencontrées, je leur ai dit, ce sont vos filles. Voilà. Mais il ne faut pas faire croire qu'on peut tout faire. Ce n'est pas vrai. Pas quand vous travaillez autant.
Quelle est votre définition de la femme inspirante ?
Moi, celle qui m'inspire, ce sont des femmes qui me prennent des risques, qui sont un peu rebelles, qui ne se laissent pas dicter leur vie par la bienséance, par l'autre, par la société, et qui foncent. Voilà, j'ai pas la prétention d'être de ces femmes-là, mais moi, ce qui me fait souvent pleurer face à des femmes, c'est la notion justement de sacrifice, de conviction, de femmes qui... Je suis pas capable de ça. Et moi, ça m'émeut vachement le courage qu'elles ont.
Et vous avez des femmes qui vous ont inspiré ?
Ma mère est quand même une source d'inspiration parce qu'elle a été l'une des premières femmes sur les terrains de guerre. Donc, je dirais en priorité ma mère. Après, j'ai pris de plein de femmes, plein de choses. Mais il y a des hommes aussi qui m'ont inspirée. Donc, je peux pas dire que c'est automatiquement des femmes. Comme je vous l'ai dit, je me sens pas très genrée, en fin de compte.
Quel est le moment le plus difficile de votre carrière ?
J'en ai eu pas mal. Je dirais... on n'a pas voulu me donner un job. Et je me vois, mais je pleurais dans mon bureau. Et je pleure jamais. Hein. Je suis quelqu'un qui dure mal. Et là, je le vivais comme... on me reconnaissait pas tout le travail que j'avais fait, etc. et tout. Et après... je pense que ça a été très dur quand j'ai quand même quitté Endemol d'avoir tant donné. C'est le syndrome de la bonne élève où on a l'impression qu'il faut vous donner des bons points parce que vous avez bien travaillé. Ça, c'est un truc de fille qu'il faut arrêter. Donc, il faut pas non plus qu'on se dise que nous, parce qu'on est une fille, on mérite des bons points.
Est-ce qu'il y a un moment où vous avez douté, vous avez voulu renoncer, la marche était trop haute ?
À un moment, j'ai regardé pour faire des études de vétérinaire. Reprendre mes études, c'était il y a, je sais plus, 10 ans. Mais je me suis dit, mais à un moment, mais comment je vais faire pour vivre ? C'est vrai, j'ai 2 enfants, il y a un moment, il faut quand même que je les nourrisse. Donc, j'ai abandonné.
Quel est le moment dont vous êtes le plus fière dans votre carrière ?
Le fait d'avoir duré. Je trouve que c'est très difficile de durer. Franchement. Mais ça demande une vélocité, une adaptabilité, quelquefois pas d'ego, mais à la fois un surego pour quand même foncer. Enfin, je trouve que démarrer à 16 ans et être toujours là à 54, ouais, je suis assez bluffée. Là-dessus, je suis fière de moi.
Et votre plus gros défi, ça a été quoi ?
Un défi rétrospectif, c'est franchement que mes filles soient heureuses. Elles sont bien dans leur basket, j'en ai une qui fait des super études, l'autre elle a des super notes, elles sont heureuses, elles sont indépendantes, elles sont rigolotes. Je m'étais pas posé la question de la maternité, mais en fin de compte je suis assez contente de ça.
Et votre prochain Everest ?
Alors je le dis maintenant officiellement, je voudrais être patronne d'ADP, Aéroport de Paris. Ouais, ça fait 20 ans que je rêve d'être patronne d'ADP. Et donc maintenant, j'assume de le dire, parce que je me dis que peut-être que là, je peux être entendue.
Qu'est-ce qui vous séduit dans ce défi ?
Tout. Alors déjà, je suis très heureuse dans les avions. Je pense que c'est mon moment de décompression, mais enfin bon, ADP, c'est plutôt au sol. Je pense que c'est la diversité des métiers d'ADP, la difficulté à la fois sécuritaire, RH, les grands hubs, les grandes compagnies aériennes, les enjeux économiques, la transformation, tout ça. Voilà, c'est mon rêve. Donc je l'assume. Alors j'ai un copain qui est au conseil d'administration, qui s'appelle Xavier Hurstel, si tu m'entends.
Vous avez un mantra qui vous définit ?
J'en ai un qui est tout simple, tout ce qui est pris n'est plus à prendre.
On va revenir un instant sur mon sujet de prédilection qui est l'automobile. Est-ce que vous avez un accessoire qui ne vous quitte jamais en voiture ?
Alors, j'ai un parfum pour voiture, un petit parapluie, j'ai toujours mon chien, donc j'ai quelque chose pour qu'il puisse boire, et j'ai des sacs isothermes quand je vais acheter du congelé.
Quel est votre meilleur souvenir automobile ?
J'ai été très longtemps avec un garçon qui avait l'une des plus grosses collections de voitures anciennes. Son papa, d'ailleurs, il en a fait un musée. Donc, je suis une fan absolue d'auto.
Ah, c'est marrant.
Mon plus grand kiff quand j'étais ado, c'est mon beau-père qui avait relancé le circuit à Montlhéry de Lotus 7, ouais. De course Lotus 7, m'a emmené au milieu de l'équipe Ferrari. Et il y avait 30 Ferrari qui ont ouvert le moteur en même temps. Je pense que j'ai vécu une extase.
Quel est votre pire moment passé en voiture ?
Je pense que la voiture est vraiment un moyen de locomotion que j'adore. Donc, je n'ai pas de mauvais souvenirs. Non, j'ai eu un souvenir tellement drôle. Je me retrouve à un rond-point et j'avais un vieux combi Volkswagen, très très vieux. Hein, il datait des années 70. L'embrayage s'est bloqué et donc la seule marche qui marchait, c'était la marche arrière. Et donc, j'ai remonté la marche arrière. Je me suis mis dans un petit endroit de dégagement. Et là, j'ai appelé un copain qui m'a expliqué qu'il fallait que je débraye, rembraye, que j'appuie jusqu'au fond de la pédale, que j'attire, parce que c'était un vieil engin. Et donc voilà. Mais c'était drôle, quoi.
Au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts ?
Tout à la fois. J'ai une notion de rentabilité du temps. Je suis capable de faire mon sport en écoutant un truc pour... voilà. En ce moment, j'apprends l'italien. Donc, je fais des podcasts italiens. Sinon, quand je vais pas bien, j'écoute de la musique très, très fort. Quand le père de ma fille est décédé, c'était le moment où Beyoncé sortait Crazy. Et je mettais ça à donf. Et en fin de compte, je pense que cette musique m'a sauvée. Je pense que la notion de voiture, de conduire, d'être avec cette musique, ça m'a beaucoup aidée.
Et pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femme, on part en road trip. Alexia, vous nous emmenez où ?
Oh là là, alors moi déjà mon rêve, c'est d'avoir une voiture avec un Airstream. Vous voyez ce que c'est ? C'est une sorte de caravane américaine, vous savez, en alu. Et là, je vous emmène partout. Alors peut-être là, je prendrai la route de Paris pour aller dans ma maison qui est en Sicile, à Syracuse, pour traverser toute l'Italie. Et je trouve que la vraie liberté, c'est d'avoir son camping-car. Moi, je le vis comme ça, en tout cas ma liberté. Et donc j'ai dit à mon mec qu'il fallait qu'il s'attende à ça bientôt, qu'on parte en camping-car, quoi.
Alexia, au revoir et un grand merci pour ce moment au cœur du divertissement français.
Merci à vous.
C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leur victoire comme leurs doutes. Parole de Femme.